France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. En avril 1977, le chef d'orchestre Laurine Mazel venait d'être nommé à la tête de l'Orchestre National de France. L'occasion pour Claude Maupomet de recevoir le maestro à son micro et de l'inviter à nous faire partager ses choix musicaux. Je vous propose d'écouter aujourd'hui le premier volet de cette émission. Laurine Mazel évoque le jeune musicien prodige qu'il était, son attachement à la langue et à la culture française, et bien sûr les compositeurs et les interprètes qui ont marqué sa carrière. Tout de suite, le concert égoïste de Laurine Mazel qui débute par l'extrait d'une répétition de l'Orchestre National de France, placé sous la baguette de Laurine Mazel.
On dit que c'est une marche turque. C'est la première fois que j'entends ça. Aujourd'hui, c'est une marche turque à la 9e. On entend de tout.
Imaginez-vous que vous vous trouvez dans une chambre très connue à vous, et vous fermez les yeux et vous pouvez identifier chaque objet dans la chambre, chaque objet parfaitement, et c'est exactement ça que nous faisons en regardant une page d'une partition et pour plusieurs minutes ça reste devant nous, devant les yeux. Justement, on peut fermer les yeux et on peut voir exactement où chaque note est placée sur la page. Il n'y a pas d'extraordinaire là-dedans.
Oui, violoniste.
Et c'est bien bizarre que beaucoup de musiciens ont ce genre de mémoire. C'est mémoire visuelle auditive.
Américain. Vous savez à quoi ça fait penser, ce que vous dites? Ça fait penser à la fameuse anecdote de Mozart à Rome, entendant le Miserere d'Allegri. Rappelez ça.
J'habitais à Rome.
J'habitais à Rome, oui.
Il était interdit d'avoir la partition et le transcrivant en rentrant chez lui.
Oui, mais pas tout. Il a oublié 3-4 notes.
Directeur de l'orchestre de Cleveland.
Déjà à 9 ans.
Oui.
Vous dirigez tout par cœur.
Non. Non, non. J'ai pas honte d'avoir la partition devant moi.
Non. Mais moi, je vous ai presque toujours vu. Enfin, j'ai l'impression de vous avoir toujours vu cette partition.
Presque toujours. Mais à l'opéra, quand même je tiens la partition devant moi parce que justement, ça donne un appui au chanteur en regardant le chef d'orchestre. Au moins, ils ont. Ils n'ont pas l'ennui d'avoir peur que le chef d'orchestre va oublier quelque chose.
Oui, c'est pour les rassurer eux, mais pas vous.
4 avant 4. 416. 7. 407. Laufen, Brüder, eure Mann.
Le concert égoïste de Laurine Mazel. Les œuvres que vous avez choisies, Laurine Mazel, pour ce concert égoïste, est-ce qu'elles ont pour vous une signification intime? Est-ce qu'elles sont rattachées à des souvenirs ou à des êtres qui ont été importants pour vous, qui le sont?
Et ça dépend vraiment de l'œuvre. Mmh. Au fur et à mesure, je vais vous raconter tout et dévoiler les plus grands secrets de mon cœur.
Très bien, c'est tout ce que je demande. Bien, alors, nous allons commencer par la sarabande de la partita en si mineur pour violon seul de Bach, dans l'interprétation de Nathan Milstein, que vous avez choisi.
Et je l'ai choisi parce que, justement, j'avais un maître très dur, très bon, vieille école. si vous voulez. Il croyait à la musique de Bach. Il m'a dit au moins 1000 fois, c'est la base de la musique. Et la compréhension de la musique entière est basée sur une compréhension de la musique de Bach. Dès que je jouais le violon, il m'a fait apprendre toutes les sonates, toutes les partitas de Bach. Et j'ai pris l'habitude de cette époque-là de jouer des extraits, des sonates chez moi, très souvent après une représentation à l'opéra, par exemple. Je rentrais à la maison assez fatigué et je suis allé au violon et j'ai alors fait très peu de lumière dans la chambre et voilà, pour 10 minutes, je jouais un morceau, un extrait. Et justement, cette sarabande, j'aime beaucoup. Il a une douceur, un raffinement très spécial. Et je suis très attaché justement à ce morceau parce que c'est un des premiers morceaux que j'ai appris.
Sarabande, de la partita en si mineur pour violon seul de Bach, interprétée par Nathan Milstein. Marine Mazel, ça vous faisait du bien donc, après un concert et étant fatiguée, de jouer ça?
Oui.
C'est apaisant?
C'est un genre de yoga. Et le violon, un instrument. L'instrument représente pour le vrai musicien un exercice mental, psychologique, spirituel. Et justement, par exemple, en tirant la vie d'une corde, comme ça, avec l'archer, ça te donne une expérience absolument complète. Par exemple, les musiciens qui jouent le corps, très souvent, ils font des promenades dans la forêt.
Ils sont obligés pour travailler tranquillement.
Oui, mais dans la pleine forêt, en jouant des notes comme ça, parce que vraiment, c'est une expérience presque cosmique. Mm-hmm. C'est très difficile à exprimer, mais c'est une expérience très valable, très, très, très belle.
Quel enfant est-ce que vous étiez? Quelle enfance est-ce que vous avez eue?
Bon, j'étais méchant, et j'étais doux, j'étais agressif, j'étais bon, un garçon quoi. Et j'ai eu la chance de pas être exploité par les parents. J'ai donné peut-être 10 concerts par an, et surtout en été, et pendant les vacances. Ça veut dire que j'ai eu la possibilité d'aller à l'école régulièrement. Mmh. Et alors j'étais comme tous les gars, je jouais de football, baseball et tout le reste. Alors un enfant normal, un garçon normal.
Chef d'orchestre depuis l'âge de 9 ans.
Mais c'était toujours en été,
oui,
c'était
oui.
une bagatelle comme... pour moi.
Oui, oui.
Et malgré ça, la moitié de l'été, j'étais en vacances, j'avais un tout petit bateau et nous allions toujours au lac, n'est-ce pas, dans une campagne très douce. Alors j'étais content.
Et vous parlez français si bien, vous avez vécu ici beaucoup ou pas?
Non, mes parents sont partis quand j'avais 2 ans. Et j'ai dû apprendre la langue quand j'étais déjà adulte. Et je n'ai jamais eu l'occasion de passer plus de 2 mois en France. J'ai passé pas mal de vacances. Et bien sûr, plus tard, j'étais ici très souvent pour les raisons professionnelles. Mais comme ça, j'aime les langues et ça m'intéresse beaucoup.
Je
m'intéresse beaucoup aussi à la littérature française, au théâtre français.
Oui, vous lisez
et,
donc.
Oui, et j'ai un faible pour la culture française. Et alors, bien sûr, ça tombe, tout tombe à place.
Vous lisez d'une part, c'est important. L'oreille est importante, la mémoire est importante.
Oui,
c'est
bien sûr,
ça
joue un rôle.
Brahms, alors, sonate pour violoncelle et piano, en mi mineur. Le premier mouvement, par Pierre Fournier et Rudolf Virkusny. Alors, Brahms, très important pour vous.
Oui, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Mais justement, ma conception de sa musique symphonique est basée sur mes expériences de sa musique de chambre. Et c'est justement cette sonate qui m'a révélé un côté de Brahms quand j'étais très jeune, que je ne connaissais pas. Et cette sonate m'a révélé tout un monde très, très intime et très beau. C'est un compositeur sombre et pudique.
Mais passionné.
Oui, beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, mais un raffinement vraiment extraordinaire. Et je ne suis pas violoncelliste, mais j'aimais toujours le violoncelle parce que justement je trouvais dans cet instrument à cordes beaucoup plus grand que le violon un instrument qui peut exprimer une douceur et une douleur de l'âme tout à fait particulier, d'une façon tout à fait particulière. C'est un instrument extraordinaire et j'apprécie beaucoup ces deux artistes, Fournier et Virkusny, je les connais très bien. Et voilà, c'est une œuvre à laquelle je suis très attaché.
Thank you. Thank you.
Brahms, sonate pour violoncelle et piano en mi mineur, opus 38, Pierre Fournier, Rudolf Firkusny. Alors Elmazel, il faut que je dise quelque chose, c'est que la plupart des invités qui viennent à cette émission ne sont pas des musiciens de profession. Alors, en général, ils sont très occupés dans la journée à autre chose et ils sont ravis d'avoir de la musique le soir. Une soirée de musique qui ne se paierait peut-être pas chez eux. Tandis que vous, qui avez répété la 9e symphonie, qui dirigez Péléas demain, je n'ai jamais vu quelqu'un écouter comme vous, avec autant d'attention et d'émotion.
Pour le musicien, la musique est un langage de l'âme, de l'esprit, de la nature. Et on ne fait aucun effort en écoutant. C'est comme respirer. Et justement, on entend toujours la musique, surtout la musique qu'on aime, avec calme, en tranquillité, avec une intensité bien spontanée qui vient directement du rythme du corps.
Vous avez fait beaucoup de quatuors.
Oui, grâce à mon maître de nouveau, Monsieur Vladimir Bakalinikov, un Russe très...
Ça, c'était aux États-Unis.
Oui. Mmh.
Mais, à Pittsburgh.
À Pittsburgh. Qui jouait viola d'une
alto,
façon vraiment
oui.
Alto, oui, vraiment d'une façon extraordinaire. Il m'a dit, alors, sans la connaissance de la musique de chambre, tu ne vas être un vrai musicien. Oui. C'est pas possible. Mmh. C'est tout là. Alors, j'ai commencé mes études avec lui, bien sûr, les quatuors de Mozart, Beethoven, Schubert, et un beau jour, je suis arrivé au quatuor de Maurice Ravel. Et ça m'a bouleversé, vraiment bouleversé. Et j'étais en larmes en jouant ça pour la première fois, parce que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la musique, la beauté même. Et alors, j'ai joué le premier violon dans un quatuor pour plusieurs années.
Vous avez créé un quatuor.
Oui, et nous avons joué justement ce quatuor très souvent. Et pour moi, la première phrase est déjà une expression tellement extraordinaire. Ça reste toujours pour moi un signe de la beauté, comme un Taj Mahal ou... un miracle de la création. Et il y a une telle simplicité, une telle beauté, une telle tranquillité et une finesse, un raffinement. Et c'est la musique même.
Nous écoutons le premier mouvement.
Oui.
Par le quatuor Vianova.
Thank you.
Premier mouvement du quatuor de Ravel par le quatuor Vianova. Laurine Mazel, vous n'êtes pas pour les frontières en musique. Vous admettez le jazz?
Bon, comme tous les garçons de l'époque, j'avais 17 ans... Je voulais faire impression sur les filles, alors je jouais de piano aux parties. Et je jouais très mal le piano, mais j'avais suffisamment de technique pour jouer un peu de Gershwin et tout ça. Et j'étais très content de l'impression que j'ai fait. Et alors, en faisant cette expérience, j'ai fait une connaissance de ce genre de musique. Et un beau jour, plusieurs années plus, j'étais beaucoup plus vieux, et je me trouvais marié avec une très jolie femme, une personne vraiment extraordinaire, et une grande musicienne. Elle m'a dit, bien, alors la musique classique, ça va très bien, mais est-ce que tu connais un disque qui s'appelle Misty? Errol Gardner. J'ai dit non, je ne connais pas ce disque. Alors, elle m'a fait la connaissance de ce disque et j'étais vraiment emballé par ça. Et j'ai devenu un mélomane, un Earl Gardner man. Mélomane, ok. Et alors, cette chanson est très connue et il a créé cette chanson et il joue vraiment d'une manière splendide et je dois avouer que quelquefois que je rentre après une représentation, surtout un théâtre, parce que la musique, faut pas mêler trop de musique. Après un théâtre, voilà, j'ai mis le disque de Misty. Surtout si je me trouve à la Côte d'Azur, c'est très bien. Alors, allons-y.
Thank you.
Errol Garner, Misty. Il joue mieux que vous, croyez?
Ah oui.
Dinu Lipati. Je me demande si Dinu Lipati aimait le jazz.
Croyez pas. Non, je crois pas. Et Lipati, c'était un être vraiment extraordinaire, et un vrai génie. Il jouait d'une façon éblouissante, remarquable. J'ai choisi cette œuvre pour deux raisons. La première, parce que justement, je voulais vous faire entendre encore une fois le grand Lipati. C'est presque un spectre dans la musique, parce qu'il est mort, il est tellement jeune. Il a fait son apparition comme ça, comme une étoile, et voilà, disparu d'un moment à l'autre. Une grande perte pour la musique. Et deuxièmement, parce que c'était le premier concerto de piano que j'ai dirigé, justement avec Agnès Dorfman. J'avais même 13 ans, c'était à Montréal. Et elle était vraiment affolée quand elle m'a vu, parce qu'elle jouait tout le temps avec Toscanini. C'était justement lui qui...
Mais vous aviez la caution de Toscanini, puisque Toscanini vous prêtait son orchestre.
Oui, mais...
Depuis l'âge de 11 ans.
Justement à cause de ça qu'elle a accepté le concert. Mais quand même, elle est arrivée, elle a trouvé un petit garçon, n'est-ce pas, avec voix de soprano. Et alors... mais elle était quand même très gentille avec moi. Et nous sommes restés des amis pour des années après. Et je rappelle encore la façon dans laquelle elle jouait ce concerto. Et alors, je suis lié à la musique pour des raisons sentimentales. Mais justement, la création de Lipati est vraiment extraordinaire.
Nous écoutons le troisième mouvement. Hein? Et il joue avec l'orchestre Philharmonia, qui est dirigé par Alceo Galliera.
Oui, c'est curieux que j'ai utilisé le mot création, parce que l'interprète toujours pense en ces termes. Il ne dit jamais l'interprétation. Pour lui, c'est une création. Mm-hmm. Et c'est vrai, parce que qu'est-ce que c'est une note? Qu'est-ce que c'est dit une note?
C'est dit si ça joue.
C'est l'espace entre les notes et la manière dans laquelle on joue. Mm-hmm. Et voilà, alors, création de Lipati. Thank you.
Thank you.
Concerto en la mineur, opus 16 pour piano et orchestre de Grieg, Dinouli Patti, l'orchestre Philharmonia, dirigé par Alceo Galliera. Et pendant tout ce temps, Laurine Mazel cherchait à diriger et son épouse, qui attend sagement de l'autre côté de la vitre, lui faisait des signes. Elle est pianiste.
Oui, oui. Mais justement, j'étais un peu triste au même temps parce que j'ai pensé à la dernière exécution de cette œuvre que j'ai donnée. C'était avec Gina Barawa, grande artiste, grande amie à nous. Et elle est morte récemment. Vraiment une grande perte pour la musique. Vraiment très triste. J'ai dû penser à ça aussi, justement, à ce moment-là.
L'art lyrique. Alors ça, c'est un monde différent de la direction symphonique purement.
Bon, ce concert s'appelle le concert égoïste.
Oui.
Alors, il faut forcément donner toujours des raisons personnelles pour la choix.
On peut avoir des caprices aussi.
Des caprices, oui. Parce que justement, ce choix ne représente pas un panorama complet de la musique. C'est pas possible.
Pas possible en deux.
Mes goûts personnels, forcément, non plus. Mais il y a toujours des raisons sentimentales, comme ça. Voilà, Tosca. C'est la première opéra que j'ai dirigée dans ma vie.
À quel âge, si je peux demander?
J'avais 26 ans.
Ah, tout de même.
Oui. Ah oui, quand même. Ah. Et c'est dirigé par le grand chef d'orchestre Victor de Sabata, qui a joué un rôle très, très important dans ma vie. Justement, je ne voulais plus faire la direction d'orchestre, je voulais faire la mathématique. Et par hasard, M. de Sabata, qui dirigeait l'orchestre de Pittsburgh, était là, dans le moment plus grave de ma vie. Et il m'a dit, non, ça serait vraiment ridicule parce que toi, tu es vraiment doué pour la musique. Il faut étudier, il faut continuer. Et j'avais un grand amour pour cet homme. Il était vraiment une personnalité extraordinaire. Un des plus grands chefs d'orchestre de tous les temps. Il était doué d'une façon incroyable, un grand pianiste, grand compositeur, grand chef d'orchestre avec l'oreille parfaite, et une mémoire extraordinaire, une fantaisie éblouissante. Et il m'a vraiment introduit à la musique au fond, parce que jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que la musique pourrait être.
C'est capital des rencontres.
Il a révélé tout à moi, oui. Et il a été aussi très gentil avec moi. En me donnant ses conseils. Et voilà, ce disque-là, c'est un des disques plus importants dans l'histoire des enregistrements. Maria Callas était formidable, comme Tosca, et Tito Gobbi, bien sûr, Scarpi extraordinaire. Et c'est dommage que Di Stefano n'est pas dans l'extrait que j'ai choisi, mais justement, je voulais faire entendre un peu maîtrise de Victor de Sabre dans cette œuvre. Moi-même, j'ai enregistré la Tosca,
oui.
Mais quand même, je garde un souvenir très personnel de cet enregistrement, qui je trouve toujours un des meilleurs faits dans l'histoire de la musique.
Vous avez choisi la fin du premier acte.
Oui.
Tosca divina, la mano mia, la vostra aspetta, piccola malina, non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta.
Grazie, signor.
Un nobile esempio il vostro, al cielo piena di santo zelo, attingete dell'arte il magistero che la fede ravviva.
Bontà vostra!
Le pie donne son rare, voi
scavalcate la scena e in chiesa ci venite per pregare. E non fate come certe sfrontate che han di Maddalena al viso i costumi. Questo
ventaglio dove stava
là su quel palco, qualcun venne certo a sturbar gli amanti ed essa nel fuggir perdere penne.
S'achève la première partie du concert égoïste de Lorin Maazel, une émission de Claude Maupomé, diffusée en avril 1977 sur l'antenne de France Musique. Le podcast de cette archive est à retrouver sur l'application Radio France et sur le site francemusique.fr. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.